Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h avec Jean-Noël. Nous allons parler de l'actualité scientifique pendant cette émission. Vous nous écoutez sur graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, hein, je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de cette émission et de toutes les émissions de Graphite, bien sûr, sur le site Internet. Et la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent. Merci à vous, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Ça va être l'heure du déjeuner bientôt, nous sommes le 20 mars. C'est la journée internationale du bonheur. Ah, enfin, parce qu'on n'en pouvait plus, ça devenait catastrophique franchement. On n'en peut plus. Là, on veut du bonheur. Eh bien, c'est aujourd'hui. Voilà, le 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur. Je ne vois pas trop ce que ça peut nous apporter, cette journée internationale du bonheur. On voudrait une année internationale du bonheur, une décennie, un siècle. Bon, on va déjà prendre une journée. Hein. Si on a déjà ça, on n'a qu'à l'utiliser. Maintenant, on prend ce qu'on nous donne, hein, au point où on en est. En tout cas, la journée internationale du bonheur, elle date depuis le 20 mars 2013. En fait, c'est assez récent, parce qu'avant, on s'était dit non, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de ça. Et depuis 2013, on s'est dit, ah, mais peut-être quand même, il faudrait mettre une journée internationale du bonheur. Naissance, le 20 mars 1860, de Paul Maurice Legrain, médecin français, dirigeant actif et influent de la lutte anti-alcoolique. Il est né le 20 mars 1860. Décès le 20 mars 1788, juste avant la Révolution, de François-Paul Pouletier de La Salle, chimiste français. Il fut le premier à trouver la présence de l'acide phosphorique dans la substance osseuse. Et vers 1758, il isola pour la première fois les cristaux de cholestérol. Comme ses travaux ne furent jamais publiés, eh bien l'attribution et la datation de ses articles ne sont connues que de façon approximative. Mais en tout cas, voilà, ce chimiste français, François Pouletier de La Salle, a donc apporté des informations et des découvertes vraiment essentielles. Les cristaux de cholestérol et l'acide phosphorique dans la substance osseuse. Donc on va profiter de cette éphéméride pour évoquer justement la mémoire de ce François de la Pouletier de La Salle. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. On parle un peu de tout, on parle de médecine, on parle de technologie, on parle d'objets connectés, on parle d'espace bien sûr, parce qu'on le sait très bien que l'actualité de cette décennie, ça va être Mars, on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure dans cette émission. Et puis, y a aussi quand même un petit peu cette technologie qui nous dépasse un peu, et notamment cette annonce faite il n'y a pas longtemps de la part de Microsoft, qui explique en fait que les utilisateurs, et nous sommes nombreux, de la suite bureautique de Microsoft, vont bientôt avoir l'étrange sensation que quelqu'un lit par-dessus leur épaule et lit peut-être même dans leurs pensées. Selon des informations relevées par le site NeoWin, sur la feuille de route de la suite bureautique Microsoft 365, eh bien, on va voir l'arrivée de la prédiction de texte pour Word et pour Outlook, pour les mails et pour Word. Autrement dit, il suffira de saisir une partie d'une phrase pour que le logiciel puisse vous en suggérer la suite. Il n'y aura plus rien à faire, en fait, maintenant. On écrira « bonjour, virgule » et le reste du mail va s'écrire directement. Ça va être génial. Déjà, on est tous chez nous en télétravail. Maintenant, l'ordinateur va faire tout à notre place. On n'aura même plus à rédiger, on n'aura plus rien à faire. J'espère que le mail sera envoyé tout seul, hein, qu'on n'aura pas à appuyer sur cette touche « entrée » ou « envoi ». Non, maintenant, je veux que tout se fasse devant moi, que je regarde et c'est tout. La fonctionnalité exploite en fait l'apprentissage automatique et vient s'enrichir aussi de notre style d'écriture au fur et à mesure que l'on rédige. Selon Microsoft, cette fonction est bénéfique puisqu'elle permet de réduire les fautes d'orthographe et de grammaire. Oui, peut-être. Enfin, si on est habitué à faire des fautes d'orthographe, je pense qu'intuitivement, on continuera à en faire. La firme qui a fait tester la fonctionnalité en version bêta à partir de l'automne explique que la prédiction est réalisée en local. Cela signifie que ce regard un peu indiscret sur nos productions les plus personnelles n'est pas censé envoyer de données sur les serveurs de Microsoft. Ok, on va les croire. L'algorithme serait directement implanté dans le logiciel et son enrichissement se ferait également de façon locale. Pour le reste, eh bien, le principe de fonctionnement est similaire à celui mis au point par Google avec sa fonction Replay dans Gmail, mais également Smart Compose pour son application de traitement de texte Google Docs. Google Doc, pardon, je vais y arriver. Donc, c'est déjà des fonctionnalités qui existent, mais voilà, qui commencent à se généraliser. Concrètement, en fait, c'est lorsque l'utilisateur va saisir sa phrase, eh bien, cet outil de prédilection va afficher sa suggestion surlignée en gris. Et donc, si c'est le texte qu'on souhaite saisir, eh bien, il suffit de presser une touche du clavier pour pouvoir la valider. Si ce n'est pas le bon terme, eh bien, on peut le rejeter en choisissant une autre touche. Et afin de ne pas être totalement entravé par les suggestions, perturbé par leur présence, eh bien, il est possible de désactiver cette prédiction de texte. Je l'espère, parce que si on est en train d'écrire un mail et que ça n'arrête pas de nous donner des suggestions et qu'on n'en veut pas, si on passe notre temps à effacer les suggestions, on va mettre deux fois plus de temps à rédiger un mail qu'on le faisait auparavant. Bref, ça peut être pratique si on sait saisir rapidement du texte, oui, nous dit-on. Mais en tout cas, voilà, si Word maintenant va prédire bientôt la fin de nos phrases, ça va être difficile aussi de pouvoir un petit peu, varier les plaisirs et varier les tournures de phrases, parce qu'au bout d'un moment, ça sera toujours la même chose, et comme ça, on va très peu évoluer notre vocabulaire et notre syntaxe, qui serait fort dommage. Mais que voulez-vous ? Nous vivons dans une époque formidable d'un point de vue technologique, ça c'est certain, d'un point de vue purement technologique, c'est quelque chose d'assez fascinant. Après, est-ce qu'on a nécessairement besoin de cette application au quotidien ? À voir, à faire, à suivre, chacun a son propre avis, bien sûr. Allez, un peu de musique pour nous remettre de ces émotions. Hayden Army de Gagel sur l'antenne de Graphite. On a parlé de mars depuis le début de ce mois de mars, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Oui, à peu près un mois, je crois que Perseverance a atterri sur Mars. Et en attendant que Perseverance donne des premiers résultats, eh bien, sur Terre, des chercheurs continuent de se demander si des micro-organismes pourraient survivre aux conditions un peu difficiles qui règnent sur Mars. Il y a donc une équipe de la NASA et une équipe du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique qui a mené des études et qui nous apprend aujourd'hui que certains microbes, en particulier les spores d'Aspergillus niger, c'est un espèce de champignon de couleur noire qui apparaît sur les fruits et les légumes, eh bien, ces microbes seraient capables de survivre au moins temporairement dans l'environnement de Mars. C'est assez intéressant. Pour tester l'endurance de ces micro-organismes, eh bien, les chercheurs ont imaginé une espèce de box, hein, on va appeler ça une Mars box, c'est-à-dire un lieu clos qu'on va remplir d'une atmosphère artificielle pour rendre un petit peu les conditions de l'atmosphère de Mars. C'est-à-dire une atmosphère composée essentiellement, on le sait, de dioxyde de carbone, un peu d'argon, un peu d'azote, des traces d'oxygène, un peu d'eau, un peu de méthane, et le tout maintenu à une pression environ 170 fois inférieure à celle qui fait loi sur Terre. Puis, à l'aide d'un ballon, eh bien, les chercheurs ont expédié cette box au-dessus de la couche d'ozone dans la stratosphère moyenne de notre Terre, à environ donc 38 km d'altitude. L'idée, c'est de trouver à cet endroit les conditions les plus semblables à celles qui règnent sur Mars, notamment concernant l'exposition à un rayonnement ultraviolet intense. Et donc, on a structuré cette box en deux couches d'échantillons. Il y a une première couche qui est exposé à un rayonnement UV plus de 1000 fois plus intense que ceux que nous recevons sur Terre. Et il y a une autre couche qui, elle, était protégée. L'idée, c'était de bien pouvoir distinguer les effets de ce rayonnement et de voir sur les autres conditions que l'on teste, également la fluctuation de température et également une déshydratation poussée. Résultat de cette étude, selon les chercheurs, eh bien ce fameux Aspergillus niger, qui avait déjà été détecté sur la Station Spatiale Internationale, on en avait déjà parlé, eh bien il résiste, il est quand même coriace ce gaillard, il est suffisamment résistant parce qu'il a pu être « réanimé » entre guillemets sur Terre quand il est revenu. C'est assez intéressant de voir que des microbes terrestres pourraient survivre sur Mars. À ceux qui se demandent pourquoi étudier la résistance de ces micro-organismes à un voyage dans l'espace, eh bien les chercheurs apportent plusieurs réponses. Alors, il s'agit d'abord d'aider à évaluer le risque que ces microbes peuvent faire peser sur la santé des astronautes, notamment dans le cadre de missions longues comme celles qui pourraient nous mener vers Mars, bien sûr. Je rappelle que c'est ce qui est attendu dans la décennie 2030. L'idée est ensuite d'assurer une certaine protection planétaire, de s'assurer que ceux qui chercheront des formes de vie ailleurs dans l'univers, ne seront pas trompés par une contamination venue de notre bonne vieille Terre. Du côté des bonnes nouvelles, les chercheurs imaginent aussi que certains de ces micro-organismes pourraient constituer des sources potentielles de nourriture et de matériaux. On va bouffer des microbes, en fait, sur Mars. Comme on ne sait pas du tout quoi manger, il n'y a rien, on mangera des microbes, dont je plaisante, mais en tout cas, ça peut être une source potentielle de matériaux, c'est ça qui peut être intéressant. Une fois encore, c'est en prévision de ces missions interplanétaires de longue durée qui sont prévues. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant de voir que des microbes qui vivent sur Terre sont tellement résistants qu'ils peuvent résister à cette atmosphère et ces conditions sur Mars assez particulières, bien évidemment. Autre chose, moi je trouve cet article assez intéressant dans le site Futura Science qui qui fourmille d'articles vraiment intéressants et qui nous parle de ces cochons qui ont appris à jouer aux jeux vidéo. Ils ne sont pas encore prêts à remporter les courses de Mario Kart, mais en tout cas, il y a des cochons qui ont tout de même appris à jouer à des jeux vidéo. Selon les chercheurs de l'université de Purdue aux États-Unis, eh bien, on a travaillé avec 4 porcs de 2 espèces différentes et ils se sont montrés capables d'associer le mouvement d'un curseur sur un écran à la manipulation d'un joystick. Je ne sais pas. Je ne sais plus où on va dans cette émission. Je veux dire, quel est l'intérêt ? Je voudrais bien savoir. Eh bien, on nous explique que ça montre un niveau de flexibilité comportementale et mentale tout à fait remarquable pour l'animal. Et cela n'a pas été simple. C'est-à-dire qu'il a fallu apprendre aux cochons à manœuvrer le joystick à l'aide de leur museau. Ensuite, il a fallu leur apprendre à faire le lien avec ce qui se passait sur l'écran placé devant eux. Et pour un animal, comprendre que les gestes qu'il exécute ont un effet ailleurs, bah, ce n'est pas une mince affaire, c'est ce qu'explique Candace Cronet, chercheur à l'université de Purdue, dans un communiqué. Alors, par le passé, il y a des études visant à percer l'intelligence des cochons qui ont déjà montré qu'ils sont capables de reconnaître certains mots, un peu comme les chiens également. Ils sont aussi capables d'utiliser des miroirs pour trouver de la nourriture cachée. Et cette nouvelle étude montre aussi que si les cochons sont stimulés par une récompense, bien sûr sous forme de nourriture, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, eh bien, ils sont aussi stimulés par des encouragements vocaux ou même tactiles. On doit leur caresser le groin à la rigueur et puis ça fait plaisir. En tout cas, c'est très important car d'un point de vue éthique, nous avons le devoir de chercher à comprendre comment les cochons nous perçoivent, nous les humains, mais aussi leur environnement. Mais oui, bien sûr, les chercheurs pensent déjà reconduire l'expérience en utilisant peut-être des écrans tactiles qui pourraient aider les cochons, parce qu'ils ont un peu, une dextérité un peu limitée, ça pourrait les aider à mieux répondre. Tu vois, s'ils pourraient carrément coller le groin sur l'écran tactile pour positionner le curseur, c'est vrai que ça serait une avancée totalement intéressante. Les chercheurs espèrent ainsi déterminer si l'utilisation de symboles pourrait nous permettre de communiquer directement avec eux, comme cela a déjà été fait avec des primates, bien sûr. Donc, la finalité de tout ça, c'est d'essayer d'entrer en communication avec les cochons. Pourquoi pas ? Mais après tout, tout est possible. Et effectivement, apprendre que finalement, cet animal dont on a une image un peu déplorable quelque part, on associe difficilement le cochon et l'intelligence, eh bien là, il arrive en jouant avec un joystick et son museau, il arrive à faire le lien avec un curseur qu'il voit sur un écran. C'est fascinant, quelque part. Ça fait rire, bien sûr, mais derrière, l'information, elle est quand même assez fascinante. On va se remettre de nos émotions, mes enfants. On va écouter Régis Boulard, ça va nous calmer un peu. chien vert de Régis Boulard sur l'antenne de Graphite. Est-ce qu'on écoute Régis Boulard dans la voiture? C'est une question qu'on peut se poser parce que pour beaucoup d'entre nous, la musique devient un compagnon incontournable dès que nous sommes en déplacement. Rien de tel, en fait, pour vaincre un peu la monotonie d'un long trajet en voiture. Eh bien, il y a des travaux récents menés en Israël, menés sur 140 sujets âgés de 18 à 29 ans, qui indiquent d'ailleurs que 97% d'entre eux écoutent de la musique en voiture. Mais est-ce que cela a vraiment un impact positif sur notre conduite? Eh bien, si on en croit cette étude parue dans la revue Psychomusicology, 80% des participants jugeraient non pas difficile, mais presque impossible de se concentrer sur la route sans musique. À l'arrivée, la plupart d'entre eux restent même dans leur voiture jusqu'à ce que la piste se termine. Ok, pour les jeunes conducteurs de 18 à 29 ans, la musique dans la voiture n'est pas seulement un divertissement, elle fait partie de leur autosphère, donc de leur environnement un peu personnel, qu'ils soient seuls ou non, c'est ce qu'explique Warren Brodsky, directeur du laboratoire Music Science à l'université d'Israël. Pour autant, le chercheur en appelle à la vigilance parce qu'il explique ils sont tellement habitués à être constamment stimulés et à absorber de grandes quantités d'informations tout au long de la journée qu'ils ne se demandent pas comment le type de musique qu'ils jouent peut affecter leur concentration, induire un comportement agressif ou les amener à mal calculer les situations à risque. Et il ajoute « Cela pourrait devenir un problème plus important à l'avenir lorsqu'il sera essentiel de se désengager de la musique et de prendre le contrôle d'un véhicule autonome par exemple. » Je rappelle que c'est un petit peu le futur qui nous attend au niveau des véhicules. Bref, l'influence de la musique sur les capacités des jeunes conducteurs est encore incertaine et on nous annonce qu'il y aura de plus en plus d'études qui vont être menées, qui seront nécessaires afin d'estimer un petit peu les risques encourus avec précision. Mais voilà, un allié à double tranchant, la musique pour se concentrer au volant. Bien sûr, faites attention quand vous écoutez Graphite. Graphite sur le 94.9, cette fois dans votre voiture, si vous avez un autoradio, bien sûr. Et puis graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Un article qui parle des colorations capillaires permanentes chimiques, donc oxydantes, qui représentent 80% des colorations disponibles dans le commerce aux États-Unis et en Europe. Tout ça, c'est grâce au peroxyde d'hydrogène. Et cet élément fait détruire la mélanine naturelle des cheveux et ensuite on remplace par des colorants chimiques. Il y a d'autres composants des teintures pour cheveux qui sont utilisés et qui servent de base à la production de pigments qui sont classés comme des cancérigènes probables pour les humains d'après des tests faits sur des animaux. Pour les teintures pour cheveux, leurs composés peuvent s'avérer toxiques lors de contacts prolongés avec la peau ou par inhalation. Il y a peu d'études qui se sont intéressées aux risques sur la santé des personnes utilisant régulièrement et sur une longue période des colorations permanentes. Et donc, on a mené au niveau de l'Université de Boston une étude observationnelle, pardon, observée en bref. Et cette étude a suivi l'apparition de cancers dans une population de 100 000 femmes sur lesquelles on a fait cette étude d'observation. Elle a commencé cette étude en 1976. Il y a environ 120 000 infirmières américaines âgées entre 30 et 55 ans qui ont accepté de répondre à des questionnaires qui étaient envoyés tous les 2 et 4 ans concernant leur habitude d'utilisation des teintures capillaires. Et on est donc sur une phase de 36 années de données au total, puisque l'étude s'est arrêtée en 2012. Et à partir de ces questionnaires, les scientifiques ont établi deux catégories. Les utilisatrices, c'est-à-dire qui ont utilisé au minimum une fois une coloration, quelle que soit la fréquence, et celles qui n'en ont jamais utilisé. La couleur des cheveux a été aussi utilisée comme un critère de classement, et dans le questionnaire reçu tous les 2 ans, les volontaires ont ainsi renseigné l'apparition de cancer confirmé par un diagnostic médical. Bref, les femmes utilisant des teintures capillaires n'ont pas plus de risque de déclarer un cancer tissulaires, c'est-à-dire des sarcomes ou des carcinomes, que celles qui n'en ont jamais utilisé. La mortalité associée au cancer n'augmente pas non plus chez les utilisatrices, c'est ce que montre cette étude. En revanche, le risque d'apparition d'un carcinome basocellulaire est légèrement plus important chez les femmes utilisant des teintures permanentes que chez celles possédant les cheveux clairs. De plus, l'utilisation répétée de ces produits est liée à la survenue plus fréquente du cancer du sein ainsi que du cancer des ovaires. On est sur une étude d'observation, entendons-nous bien, qui fait état que d'une association entre l'apparition de cancer et l'utilisation de coloration capillaire. On n'est pas dans une étude où on va essayer de mettre en lien un lien de cause à effet. Là, on fait juste une observation, entendons-nous bien, attention. C'est important de bien préciser cela. En tout cas, on n'est pas sur un lien de causalité entre ces deux variables, le fait d'utiliser des colorations pour les cheveux et le fait d'avoir une augmentation du risque de cancer. Cette étude, de toute façon, elle ne peut pas être généralisée à la population entière, parce que on a utilisé uniquement une catégorie de population qui sont les infirmières. Donc, il y a certains biais qui apparaissent. Et finalement, cette étude n'a pas d'intérêt scientifique en tant que tel. C'est-à-dire que soit on élargit l'étude à un vrai échantillon de la population, donc en prenant différentes catégories socio-culturelles en termes de conditions médicales, de pathologies et ainsi de suite. Et donc dans ces cas-là, on peut essayer, et en plus avoir un nombre important de personnes qui sont impliquées dans cette étude, soit on ne fait rien du tout. Parce que du coup, on est sur cette étude-là, elle a été un peu critiquée, notamment, bien évidemment, par les entreprises cosmétiques, parce que on est sur quelque chose qui ne montre pas nécessairement de lien, mais il y a une espèce de suspicion. Donc, il a été décidé de poursuivre cette étude parce que pour l'instant, il n'est pas possible de conclure que les colorations permanentes pour cheveux soient la cause de l'apparition de certains cancers chez les femmes. Donc, on va poursuivre cette étude, essayer d'élargir un petit peu la base d'investigation pour essayer d'avoir peut-être une idée, justement, un peu plus précise d'un éventuel lien, bien évidemment. En tout cas, il me semble aussi que c'est la première fois qu'on abordait ce sujet dans cette émission. Il y a plus de 10 ans que cette émission existe et je n'ai pas souvenir d'avoir vu passer un article sur ce sujet-là également. Et effectivement, ça peut être intéressant d'essayer de poursuivre des investigations pour avoir au moins peut-être une information un petit peu plus précise et fiable. Allez, on va continuer de feuilleter l'actualité scientifique et aussi continuer d'écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite. We'll be right back.
rider he lays on each family occasion. When the clock strikes midnight, we think about Louis and wonder and fry. What was his aim, that man with a knife? And Louis's young daughter, did she put up a fight?
Chapel Hill avec Poor Uncle Louis sur Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne. Vous écoutez entre 12h et 13h tous les samedis l'émission d'actualité scientifique Biotine sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur Internet. Je rappelle que vous avez la possibilité de suivre la page Facebook de Graphite pour vous permettre justement d'avoir toute l'actualité de votre radio préférée, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement cette page. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous incitons bien sûr à liker la page, ce qui nous permettra d'avoir aussi une meilleure visibilité. Et nous vous en remercions par avance. On va parler de la Lune. Alors, il y a deux informations au niveau de la Lune que je voulais évoquer, qui sont un peu anciennes, mais je n'avais pas encore eu le temps d'évoquer cela. Premièrement, c'est au niveau donc de l'exploration humaine et robotique de la Lune. On le sait, il y a l'Amérique et la Chine qui ne sont pas les seules puissances spatiales à afficher de grandes ambitions. Il y a l'Agence spatiale européenne, elle aussi, qui a la Lune en point de mire. Mais au contraire de ce qui se passe aux États-Unis et en Chine, la stratégie européenne ne s'appuie pas sur un programme autonome d'exploration humaine. En fait, l'Agence spatiale européenne a fait l'impasse sur les vols habités made in Europe, préférant plutôt collaborer à tout va avec toutes les agences spatiales concernées par la Lune. C'est une coopération significative donc, mais qui ne l'empêche pas de financer ses propres programmes lunaires, dont une mission de retour d'échantillons et un ambitieux projet d'atterrisseur capable d'emporter sur la Lune une tonne 5 de fret. C'est quand même assez intéressant. Ce dispositif d'une très grande polyvalence, tant sur le plan de la forme de la masse et du volume de charge utile transportable, serait construit en plusieurs exemplaires. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. L'objectif, en fait, c'est de permettre un service régulier de transport logistique afin d'envoyer du matériel aux astronautes américains des missions de la NASA, d'approvisionner toutes les infrastructures lunaires qui en feront la demande, ainsi que les missions humaines d'exploration de la Lune qui sont prévues, bien sûr. Il sera également facile d'utiliser tout ça pour pouvoir transporter des instruments scientifiques et embarquer des expériences également scientifiques, des démonstrateurs technologiques qu'on pourra réaliser directement sur la Lune. Cela a été décidé lors d'un conseil de l'Agence spatiale européenne l'année dernière à Séville et sa mise en service va débuter à la fin de cette décennie 2020. Les activités de logistique vont se poursuivre tout au long de la décennie 2030. Je n'arrête pas de vous le dire, les décennies 2020 et 2030, que ce soit pour la Lune ou pour Mars, vont être technologiquement génial. Il va falloir suivre cela, bien sûr. Ce futur système de transport, dont les phases initiales de pré-développement ont débuté, s'appuie sur l'héritage de nombreux programmes, dont celui du véhicule de ravitaillement autonome de la Station spatiale internationale. Bref, on va pouvoir lancer ce dispositif par une fusée Ariane depuis la base de lancement de Kourou en Guyane. C'est intéressant de pouvoir voir aussi la possibilité de transporter 1,5 tonne justement de fret sur la Lune. Et pour cela, il va falloir un petit peu utiliser une version à 4 boosters d'Ariane 6, ce qui montrera l'aptitude de ce lanceur à réaliser des missions d'exploration avec une capacité d'emport qui peut aller jusqu'à 8,5 tonnes, ce qui est quand même assez important. Et technologiquement, là aussi, c'est assez, assez innovant. Et l'idée, c'est de pouvoir atterrir en tout point sur la Lune, sur la face visible, comme sur la face cachée, bien évidemment. Cela en fera un système de transport utile à une très grande diversité d'utilisateurs et qui répondra aux besoins d'une large gamme de missions qui sont prévues dans le futur. L'Agence spatiale européenne a lancé auprès des particuliers, auprès de nous et des entreprises du spatial et des entreprises d'autres secteurs, un appel à idées de missions que, justement, ce dispositif pourrait mener sur la Lune. Cette initiative ne signifie évidemment pas que les industriels, les scientifiques, les ingénieurs manquent d'idées. Le but, en fait, de cet appel à idées est de rassembler les meilleures idées à partir desquelles construire un genre de catalogue de missions à étudier. Les idées seront utilisées pour aider à définir la conception de l'atterrisseur en question. Il doit convenir à un ensemble diversifié d'utilisation et un panel varié d'utilisateurs pour des applications scientifiques ou technologiques auxquels les concepteurs de cet atterrisseur n'auraient peut-être pas forcément pensé. Donc voilà, l'idée d'un brainstorming un peu géant, c'est ça qui est prévu. Et donc l'une de ces idées pourrait donner naissance à un concept de mission pour qui serait débattu lors d'un prochain conseil de l'Agence spatiale européenne l'année prochaine en 2022. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous souhaitez justement réfléchir pour les futures missions de cet atterrisseur lunaire, eh bien l'Agence spatiale européenne a besoin de vous contacter, vous connecter sur leur site et comme ça vous aurez toutes les informations. Toujours au niveau de la Lune, une deuxième information, c'est, on remonte un petit peu dans le temps, on va remonter en 69, on se rappelle le programme Apollo qui touchait au but avec le premier alunissage d'un homme sur la Lune. Apollo 11 marquait donc les premiers pas de, en dehors du berceau de l'humanité. C'était un événement qui avait été prophétisé par certains des décennies auparavant. Il y a d'autres missions lunaires qui allaient prolonger ces premiers pas les années suivantes, déposant sur la Lune divers instruments destinés à étudier par exemple les séismes lunaires ou à effectuer des tirs laser sur des réflecteurs lunaires pour tester la théorie de la relativité générale. L'héritage de toutes ces missions lunaires est bien vivant, comme le prouve un article qui a été publié l'année dernière dans la revue Nature Astronomy et qui a fait état de nouvelles analyses d'une célèbre roche lunaire qui avait été rapportée sur Terre à la suite de la mission Apollo 17. Apollo 17, c'est il y a presque 50 ans, c'était en 1972. Cet échantillon lunaire était découvert et collecté dans une vallée, la vallée de Taurus Littoral, pas très grand, assez léger, 156 grammes, 5 cm de diamètre. Hein. S'apparente un petit peu aux roches plutoniques qui sont découvertes sur Terre et qui se sont donc refroidies à partir d'un magma. Ça donne en l'occurrence une roche qui se compose essentiellement de alors pour ceux qui s'y connaissent, d'olivine, donc c'est un peu vert, et de plagioclase calcique. Bref, c'est une consistance assez particulière. Ça a été récolté par l'astronaute Harrison Smith, à qui on doit aussi la découverte du fameux sol orange au bord du cratère Shorty également. Donc on a ramené ça et on a étudié ça. L'équipe internationale de chercheurs annonce que des minéraux qui sont présents donc dans cet échantillon prouvent que cette roche s'est formée à des températures de plus de 3300 degrés, ce qui indique la présence du minéral justement prévu là-dedans et qui aurait pris naissance sous cette forme il y a environ 4,3 milliards d'années. Et les températures aussi élevées déduites justement de leur présence explique que leur origine n'est en fait ni volcanique ni plutonique, mais doit plutôt être attribuée à la chaleur dégagée par un important impact d'un petit corps céleste. En clair, ce qu'on a réussi à comprendre, c'est que finalement, il y a eu comme un genre d'impact d'un corps céleste qui a pof, percuté la Lune, ça a formé un cratère, ça a formé de la chaleur et ça a formé cette roche qui, du coup, a pu être ensuite récupérée, un petit échantillon ramené sur Terre et c'est comme ça qu'on a pu comprendre avec cette découverte. Ce qui est intéressant, c'est que 50 ans après, on continue en fait à étudier ces éléments. Je vous rappelle qu'en début du mois de mars, on avait parlé bien sûr de ce qui se passe sur Mars avec l'idée aussi dans le futur de pouvoir envoyer des rovers et des instruments pour récupérer des roches martiennes, les ramener sur Terre pour pouvoir les étudier. Là, quand on voit que 50 ans après, c'est ce qui a été fait sur la Lune et on est encore en train d'essayer d'avoir des éléments complémentaires parce que la technologie aussi nous permet de disposer d'instruments de mesure beaucoup plus sophistiqués, on se dit qu'on n'est pas prêt d'avoir les informations que l'on va récupérer de Mars. Hein. Donc ça donne aussi une idée un peu de la durée qu'il va falloir prendre en considération. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des informations tout de suite. On sait bien comment on est, hein. Nous humains, on veut tout tout de suite. Et bien là, non. Pour avoir les informations de Mars, c'est assez. Il faudra faire preuve de patience. Et justement, ce que montre cet article, c'est que bien sûr, les traces d'un impact géant sur la Lune retrouvées dans les échantillons d'Apollo 17 il y a plus de 50 ans ont été enfin quelque part révélées, compris et expliquées aujourd'hui dans cette étude parue dans la revue Nature Astronomy. Voilà, c'était toujours intéressant de voir que finalement, la Lune, contrairement à ce que l'on pensait il y a quelques dizaines d'années, on s'est dit, oh, pff, la Lune, c'est démodé. Et en fait, non, déjà, ça n'a jamais arrêté. Et ça revient, bien sûr, sur le devant de la scène scientifique, bien sûr. Allez, on termine avec un dernier titre dans cette émission Biotine. Et puis, ça sera déjà l'heure, bien sûr, de nous quitter. À tout de suite. Non, oh là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il y a des moments où je ne suis pas totalement, je dirais, expert en tout. Je vais y arriver, excusez-moi. On va écouter Argus and Julia Stone sur l'antenne de Graphite. C'est parti cette fois. Yeah.
take you higher.
Angus Jellerstone avec Big Jake Plain sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet avec soit les émissions diffusées en direct, soit les émissions que vous pouvez récupérer avec les podcasts, bien sûr. C'est tout l'intérêt du site Internet de Graphite que je vous invite à consulter régulièrement, mais également la page Facebook de Graphite qui vous permet d'être informé de l'actualité de la radio, bien évidemment. On termine avec... Alors, on a commencé cette émission en parlant de Microsoft qui, du coup, va vous aider à terminer vos phrases dans vos mails. Vous n'aurez plus rien à faire. Comme ça, tout se fait tout seul. Eh bien, on terminera avec Google qui, lui, qui est en train de préparer, c'est même déjà mis en place, le fait de pouvoir payer uniquement avec la voix. Ce sera bientôt possible d'effectuer des achats avec l'enceinte connectée Google Home sans jamais toucher à son smartphone. En fait, Google est actuellement en train d'étendre la fonction Voice Match de son assistant pour essayer de valider maintenant des paiements. C'est une nouvelle option qui a été repérée parce qu'elle a été lancée en toute discrétion auprès d'une poignée d'utilisateurs. Voice Match, c'est une fonction qui permet d'associer sa voix à une enceinte ou à un écran connecté afin d'obtenir des résultats personnalisés. Et donc l'assistant vocal est capable de distinguer jusqu'à 6 voix différentes. Google semble avoir beaucoup amélioré son système de reconnaissance vocale au point où il semble suffisamment confiant pour l'utiliser comme outil biométrique pour confirmer des paiements au même titre que la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Ça existe déjà. Et bien du coup, maintenant, on pourra parler et cette voix, notre voix, pourra servir de confirmation de paiement. Cette nouvelle fonction est conçue avant tout pour faciliter les achats avec les appareils connectés qui n'intègrent pas de caméra ou de lecteur d'empreintes. Donc les paiements restent cependant limités aux achats dans les applications via Google Play, nous dit-on, et les commandes aussi auprès des restaurants. Il n'empêche que cette option peut être activée sur différents outils connectés ou différentes tablettes ou supports ou smartphones. Et du coup, il y a de nombreuses informations qui restent encore floues. Les achats seront soumis à un montant maximum, nous dit-on, un nombre de transactions limitées par jour, nous dit-on également. Mais pour l'instant, en fait, il n'y a pas nécessairement d'informations bien claires et clairement dévoilées par Google, qui n'a pas encore donné de date de lancement grand public. Mais de toute façon, c'est parti, il ne faut pas se leurrer, ça c'est mis en place. Et du coup, voilà, d'un côté, vous rédigez votre mail sans rien faire. De l'autre, vous achetez tout et n'importe quoi sans rien faire, ne serait-ce que pour juste dire « oui, ok, je paye ». Et puis voilà, nous sommes dans un monde technologiquement extraordinaire. Enfin, je veux dire, objectivement, c'est quand même des choses, d'un point de vue technique, technologique, scientifique, fascinant. Mais alors, on nous promet, je ne sais pas, maintenant, une société où nous serons des assistés. Nous n'avons plus rien à faire. Écoutez, peut-être que bientôt, au sein de ce studio de graphite, je n'aurai plus rien à faire. Voilà, tout se fera automatiquement par une voix synthétique et d'intelligence artificielle. Et peut-être que finalement, cela nous permettra à nous de nous reposer. Allez savoir pourquoi. Allez, je plaisante, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de graphite. Merci de votre fidélité. Et puis, comme je vous le dis très souvent dans cette émission, prenez du recul. Promenez de la distance et faites preuve de bon sens. Et tout devrait aller en général, je l'espère. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, portez-vous bien, bien évidemment. Oh, allez, je vais aller déjeuner, moi. Je pense que c'est ça qui m'attend. À bientôt, merci, au revoir.